Chapitre 22. La conquête de l'amour, de la vénération, de la confiance des hommes, l'orgueil qu'elle suscite et la puissance qu'elle procure, ce sont là les éléments d'un conte héroïque. Seulement nos esprits s'attachent au caractère extérieur de semblables succès, et dans le succès de Jim, il n'y avait rien d'extérieur. 30 000 de forêt le cachaient aux yeux d'un monde indifférent, et sur une côte blanche d'écume, le bruit du ressac noyait la voie de la renommée. Le courant de la civilisation bifurquait contre un cap à 100 000 au nord du Patousan, en deux branches respectivement dirigées vers l'est et le sud-est, en laissant à l'écart ses plaines et ses vallées, ses forêts et sa vieille humanité. Il négligeait le Patousan, comme un îlot émietté et insignifiant, perdu entre les deux branches d'un torrent formidable et dévorant. On trouve assez souvent mentionné le nom du pays dans les récits des anciens voyageurs. Les commerçants du XVIIe siècle y allaient chercher du poivre, parce qu'au temps de Jacques Ier, la passion du poivre semblait brûler comme une flamme d'amour dans la poitrine des aventuriers de Hollande et d'Angleterre. Où ne serait-il pas allé pour chercher du poivre? Pour un sac de poivre, ils se coupaient la gorge entre eux, sans hésitation, où ils vendaient leur âme dont ils prenaient si grand soin d'autre part. Cet étrange et obstiné désir leur faisait défier 1000 morts diverses. Ils affrontaient les mers connues, les maladies bizarres et hideuses, les plaies, la captivité, la faim, les épidémies et le désespoir. Ils en devenaient grands par le ciel. Ils en devenaient héroïques et émouvants aussi, dans leur soif de négoce, sous les coups de l'inflexible mort qui prélevait son tribut sur jeunes et vieux. Il paraît impossible qu'un simple appétit de lucre ait pu pousser les hommes à une telle opiniâtreté d'entreprise, à un aussi aveugle entêtement dans l'effort et le sacrifice. Et en fait, ceux qui aventuraient ainsi leur personne et leur vie risquaient tout leur avoir pour une mince récompense. Ils laissaient leurs eaux à blanchir sur de lointains rivages, pour détourner les flots de la fortune vers ceux qui vivaient au pays. À nos yeux de successeurs, soumis à des épreuves moins rudes, ils paraissent grandis, non point comme agents de commerce, mais comme les instruments d'une destinée préétablie. C'est pour obéir à une voix intérieure, à une impulsion de leur sang, à un rêve d'avenir qu'ils cinglaient vers l'inconnu. Ils étaient prodigieux, et ils étaient préparés aussi, il faut l'avouer, au merveilleux. Ils l'enregistraient avec complaisance dans le récit de leurs souffrances. Ils le mêlaient à l'esprit de la mer, aux coutumes des nations étranges, à la gloire de chefs superbes. Au Patousan, ils avaient trouvé des quantités de poivre, et avaient été impressionnés par la magnificence et la sagesse du sultan. Mais on ne sait pourquoi, après un siècle de relations suivies, le pays vit peu à peu décliner son commerce. Peut-être le poivre était-il épuisé. En tout cas, personne ne s'en soucie plus maintenant. La gloire est éteinte. Le sultan, un adolescent imbécile avec 2 pouces à la main gauche, extorque à une population misérable un revenu incertain que lui volent ses nombreux oncles. Je tiens ces renseignements de Stein, qui me donna les noms de ses oncles, avec un bref aperçu sur la vie et le caractère de chacun d'eux. Il était, au sujet des États indigènes, aussi riche en informations qu'un rapport officiel, mais infiniment plus amusant. Il avait besoin d'être au courant. Il trafiquait dans un très grand nombre de ces États, et dans plus d'un district, au Patousan, entre autres, sa maison était la seule à posséder un comptoir, par licence spéciale des autorités hollandaises. Le gouvernement se fiait à sa discrétion, et il était entendu qu'il acceptait tous les risques de l'entreprise. Les hommes qu'il employait le comprenaient aussi, mais il faut croire qu'il savait les payer en conséquence. Il m'exposa les faits avec une parfaite franchise, le lendemain matin à la table du déjeuner. À sa connaissance, ses dernières nouvelles du Patousan remontaient à 13 mois, spécifia-t-il, l'état normal était là-bas celui d'une insécurité totale pour la vie et les biens. Il y avait des forces antagonistes en présence, dont l'une était représentée par le Raja Alang, le pire des oncles du sultan. Gouverneur de la rivière, il pratiquait toutes les exactions et les vols et pressurait à mort les malais du pays. Malheureuses victimes sans défense, qui n'avaient même pas la ressource de l'émigration. Car, me faisait remarquer Stein, où et comment les pauvres gens pourraient-ils s'en aller? Ils n'en éprouvaient probablement même aucun désir. Le monde qui est entouré de hautes montagnes infranchissables a été confié aux mains des grands personnages, et ce Raja-là, ils le connaissaient. Il appartenait à leur propre maison royale. J'ai eu le plaisir de rencontrer un jour ce gentleman. C'était un petit vieillard, usé et sale, avec des yeux mauvais et une bouche molle, qui avalait toutes les 2 heures une pilule d'opium, et, au mépris de la plus vulgaire décence, portait les cheveux découverts et tombant en mèches folles, pauvres et filasseuses, sur son visage desséché et osseux. Pour donner audience, il grimpait sur une sorte d'étroite estrade, dressée dans une salle à l'aspect de grange en ruine. À travers les fentes d'un plancher de bambou pourri, on apercevait, à 12 ou 15 pieds sous soi, les monceaux d'ordures et de déchets de toutes sortes entassés sous la maison. Voilà comment et où il nous reçut, lorsque je lui fis avec Jim une visite de cérémonie. Il y avait une 40aine de personnes dans la pièce, et 3 fois autant, peut-être, dans la grande cour du bas. Quelques jeunes gens, vêtus de soieries chantantes, nous regardaient de loin. La majorité, esclaves ou humbles serviteurs à moitié nus, portaient des sarongs en loques tachés de cendre et de boue. Je n'avais jamais vu à Jim un tel air de gravité, d'empire sur lui-même, d'impressionnante impassibilité. Au milieu de ces individus à peau brune, sa silhouette vigoureuse, toute vêtue de blanc, et la brillante toison de ses cheveux blonds semblait attirer toute la lumière glissée aux fentes des volets dans cette salle sombre, aux murs de paillis et aux toits de chaume. Il n'apparaissait pas seulement comme un être d'une autre race, mais d'une autre essence. Si on ne l'eût pas vu arriver dans son canot, on aurait pu le croire descendu des nuages. Mais il était sorti d'une pirogue vermoulue, où il se tenait tout à fait immobile et les jambes serrées, de peur de la faire chavirer. Assis sur une malle de fer blanc que je lui avais prêtée, il gardait sur ses genoux un revolver de marine, offert par moi au départ, que, par une intervention de la Providence, une idée absurde et bien digne de lui, ou une instinctive sagacité, lui avait fait décider de porter non chargé. C'est dans cet équipage qu'il avait remonté la rivière de Patousan. Rien ne pouvait être plus prosaïque et plus dangereux, plus absurdement hasardeux et plus solitaire. Étrange fatalité que celle qui donnait à chacun de ses actes une allure de fuite, de désertion irréfléchie et impulsive, de saut dans l'inconnu. C'est le caractère hasardeux de l'aventure qui précisément me frappe le plus aujourd'hui. Ni Stein ni moi ne soupçonnions clairement ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté du mur, par-dessus lequel, pour parler en métaphore, nous l'avions lancé sans cérémonie. Sur le moment, je souhaitais surtout le voir disparaître complètement. Quant à Stein, il obéissait, de façon bien caractéristique, à un motif d'ordre sentimental. Il avait l'idée de payer, en nature je suppose, la vieille dette qu'il n'avait jamais oubliée. Toute sa vie, il avait fait montre d'un intérêt particulier pour tout originaire des îles britanniques. Son défunt bienfaiteur était écossais, à vrai dire, écossais au point de s'appeler Alexandre McNeil, et Jim sortait d'un comté situé bien au sud de la Tweed. Mais pour ceux qui la regardent à 3 ou 4 000 lieues de distance, même pour ses propres enfants, la Grande-Bretagne, sans être en rien diminuée, paraît assez raccourcie pour que de tels détails perdent leur importance. Stein était excusable, et il me laissait entrevoir des intentions si généreuses que je le suppliais de les tenir secrètes pour l'instant. Je sentais qu'il ne fallait laisser aucune considération davantage personnelle influencer Jim. Il ne fallait même pas courir le risque d'une telle orientation. C'est en face d'une autre espèce de réalité que nous nous trouvions. Il cherchait un refuge, et ce refuge, nous allions le lui offrir, à ses risques et périls, voilà tout. Sur tous les autres points, j'usais avec lui d'une parfaite franchise. Et j'exagérais même, je le croyais au moins, les dangers de l'entreprise. À la vérité, je ne leur avais pas rendu justice. Le premier jour de Jim au Patousan faillit être son dernier jour aussi, et n'eût pas manqué de l'être si sa témérité ou son mépris de lui-même ne lui eussent fait omettre de charger son revolver. Je me souviens d'avoir vu, tandis qu'il m'écoutait développer le précieux plan de retraite que nous avions tracé à son intention, son expression de résignation obstinée, mais lasse, faire place, peu à peu, à un air de surprise, d'intérêt, de stupeur, puis à une explosion d'enthousiasme juvénile. C'était la chance même dont il avait rêvé. Il ne pouvait comprendre comment il avait mérité que je... Il voulait être pendu s'il devinait à quoi il devait... Et c'était Stein, le commerçant qui... Mais, bien entendu, c'était à moi qu'il... Je l'arrêtais court, il bredouillait, et sa gratitude me causait une inexprimable souffrance. Je lui déclarais que s'il était redevable de cette chance à un être particulier, c'était à un vieil Écossais dont il n'avait jamais entendu prononcer le nom, qui était mort depuis des années, et dont on ne gardait guère de souvenirs, en dehors d'une voix tonnante et d'une sorte de rude honnêteté. Il n'y avait réellement personne pour agréer ses remerciements. Stein redonnait à un jeune homme l'aide qu'il avait lui-même reçue dans ses jeunes années, et mon rôle s'était borné à prononcer son nom. Sur quoi il rougit et fit timidement observer, en tordant entre ses doigts un morceau de papier, que je lui avais toujours fait confiance. Je reconnus le fait et ajoutai après un instant de silence que j'aurais souhaité lui voir suivre mon exemple. Vous croyez donc que je ne le fais pas ? Demanda-t-il avec inquiétude. Puis il murmura qu'il fallait d'abord montrer un peu ce dont on était capable. Après quoi son visage s'éclaira, et il éleva la voix pour protester qu'il ne me donnerait aucune occasion de regretter une confiance que... Ne vous méprenez pas. Il n'est pas en votre pouvoir de me faire regretter quoi que ce soit. Je n'aurai pas de regrets, mais à supposer que j'en dusse avoir, ce serait mon affaire. Il devait bien comprendre d'ailleurs que cet arrangement, cette tentative, ne dépendait que de lui. Il en était seul responsable, lui et personne d'autre. Mais, balbutia-t-il, c'est précisément ce que... Je le priais de ne pas faire la bête, et il parut plus intrigué que jamais. Il était en bonne voie de se rendre la vie intolérable. « Vous croyez ?» me demanda-t-il d'un air troublé, pour reprendre presque aussitôt avec un accent de confiance. « Mais je marchais bien pourtant, ne le trouvez-vous pas ?» Il était impossible d'être fâché contre lui. Je ne pus réprimer un sourire, et lui dis qu'autant jadis, les gens qui marchaient comme cela se faisaient bientôt ermites dans un pays sauvage. « Au diable les ermites » commença-t-il avec une spontanéité charmante. Bien entendu, le pays sauvage ne lui faisait pas peur. « J'en suis heureux, dis-je. C'est là qu'il allait vivre à l'avenir, et il y trouverait assez d'animation, je pouvais le lui promettre. » « Oui, oui, » fit-il vivement. Il avait manifesté le désir, poursuivais-je inexorablement, de partir en fermant la porte derrière lui. « Vraiment, » interrompit-il, en proie à un étrange accès de mélancolie, qui parut l'envelopper de la tête aux pieds, comme l'ombre fuyante d'un nuage. Il était prodigieusement expressif, somme toute, prodigieusement. « Vraiment, » répéta-t-il amèrement, « vous ne direz pas que j'ai fait beaucoup de bruit. » Et je saurais tout supporter encore. Seulement la peste m'étouffe. Vous me montrez une porte. Très bien, lançai-je. Sortez donc. Je pouvais affirmer que la porte serait violemment fermée sur son dos. Sa destinée, quelle qu'elle fût, resterait ignorée. Parce que, malgré sa décrépitude, le pays où il allait n'était pas encore mûr pour une intervention. Une fois qu'il y serait rentré, il deviendrait pour le monde extérieur un homme inexistant. Il n'aurait plus que les semelles de ses souliers pour se tenir debout. Mais encore faudrait-il qu'il trouvât un coin pour les poser. « Un homme inexistant !»« C'est bien cela, par Jupiter » murmura-t-il à mi-voix. Les yeux qu'il fixait sur moi étincelaient. S'il avait compris les conditions, conclus-je, il ferait bien de sauter dans la première guimbarde venue et de courir à la maison de Stein pour y chercher ses dernières instructions. Et je le vis bondir hors de la pièce, sans même me laisser le temps de terminer ma phrase. Chapitre 23. Il ne revint que le lendemain matin. Stein l'avait retenu à dîner et à coucher. Il n'avait jamais vu homme plus merveilleux que M. Stein. Il serrait dans sa poche une lettre pour Cornelius, l'individu qu'il allait falloir renvoyer, m'expliqua-t-il, avec une chute momentanée de son exaltation. Et il me montra avec allégresse un anneau d'argent, semblable à ceux que portent les indigènes, un anneau usé jusqu'à une extrême minceur et portant encore des vestiges de gravure. Cet anneau devait lui servir d'introduction auprès d'un vieux bonhomme appelé Doramine, un notable, un gros légume de là-bas, qui avait été l'ami de M. Stein dans le pays où il avait connu tant d'aventures. M. Stein le traitait de « compagnon de guerre ». Compagnon de guerre, c'était bien, n'est-ce pas? Comme M. Stein parlait merveilleusement l'anglais. Il disait l'avoir appris au Céleb. Drôle d'endroit pour apprendre l'anglais, n'était-ce pas à se tordre? Il parlait avec un accent, une sorte de nasillement, si j'avais remarqué. C'est ce Doramine qui lui avait donné l'anneau. Ils avaient échangé des présents lors de leur dernière séparation, une sorte de promesse d'amitié éternelle. C'était beau, n'est-ce pas? Ils avaient dû filer au plus vite pour sauver leur peau et quitter le pays quand ce Mohamed comment, avait été tué. Je connaissais l'histoire, bien sûr. Une vraie honte, n'est-ce pas? Il bavardait sans trêve devant son assiette, tenant à la main couteau et fourchette. Il m'avait trouvé à table, un peu rouge et les yeux plus foncés, ce qui était chez lui signe d'exaltation. L'anneau était une sorte de talisman, comme dans les contes de fées, me déclara-t-il avec enthousiasme. Et Doramine devait faire son possible en sa faveur. M. Stein avait eu la chance de sauver la vie de cet homme-là, dans une circonstance quelconque. À l'en croire, c'était tout à fait par hasard, mais lui, Jim, avait son opinion à ce sujet. M. Stein était bien un homme à faire naître de tels hasards. Peu importait, au surplus. Hasard ou non, l'incident allait lui rendre un immense service. Plût au ciel seulement que le bon vieux bonhomme n'eût pas cassé sa pipe depuis ce temps-là. M. Stein n'avait rien pu lui affirmer. Il n'avait plus reçu de nouvelles de là-bas depuis plus d'un an. Ces gens-là ne cessaient pas de faire entre eux de vilaines besognes, et la rivière était fermée. C'était même une question un peu gênante, mais baste, il saurait trouver une fissure pour passer. Son bavardage joyeux m'émouvait et me causait une sorte d'effroi. Il avait la volubilité d'un enfant à la veille d'un grand voyage, devant la perspective d'aventures merveilleuses, et un tel état d'esprit chez un homme fait, et dans de pareilles conditions, avait quelque chose de prodigieux et d'un peu fou, de dangereux, de redoutable. J'allais le supplier de prendre les choses sérieusement. Lorsqu'il lâcha couteau et fourchette, il s'était résigné à manger, ou plutôt à avaler machinalement le contenu de son assiette, et se mit à fureter tout autour de lui. L'anneau, l'anneau, où diable? Ah, il le tenait. Il referma dessus sa grande main et le fourra successivement dans chacune de ses poches. Par Jupiter, il ne fallait pas perdre l'objet. Il méditait gravement sur son poing fermé. Ah, il avait trouvé. Il allait se pendre le sacré anneau au cou. Et il le fit sur le champ, sortant d'une poche à cet effet un bout de ficelle qui ressemblait à un lacet de souliers en coton. Là, voilà qui ferait l'affaire. Ce serait bien le diable si... Il parut pour la première fois apercevoir mon visage, et en fut un peu calmé. Je ne réalisais sans doute pas, m'expliqua-t-il, avec une gravité naïve, toute l'importance qu'il attachait à ce petit objet. C'était une promesse. C'était une promesse d'amitié. Et c'est chose précieuse que d'avoir un ami. Il était payé pour le savoir. Il fit un signe expressif de mon côté, mais devant mon geste d'excuse, appuya son front sur sa main et resta un instant silencieux, jouant d'un air rêveur avec les miettes de pain sur la nappe. Claquer la porte. C'était joliment bien dit, s'écria-t-il, en bondissant sur ses pieds pour arpenter la pièce. La carrure de ses épaules, le port de sa tête, sa démarche raide et saccadée me rappelaient la nuit où je l'avais vu déjà se promener de la sorte, où j'avais écouté sa confession, ses explications, comme vous voudrez, mais où je l'avais en définitive senti vivre, vivre devant mes yeux, sous son pauvre petit nuage, avec toute son inconsciente subtilité, qui savait tirer une consolation de la source même de ses peines. C'était le même esprit qui l'animait maintenant, un esprit identique et différent pourtant, comme un compagnon infidèle qui, vous guidant aujourd'hui sur le droit chemin, va demain, avec les mêmes yeux, les mêmes pas, les mêmes gestes, vous égarer irrémédiablement. Sa démarche était assurée. Ses yeux assombris et furteurs semblaient chercher quelque chose dans la pièce. Un de ses pas tombait avec plus de bruit que l'autre, du fait de ses souliers sans doute, et donnait une curieuse impression d'imperceptible boiterie. Une main profondément enfoncée dans la poche de son pantalon, il agita soudain l'autre au-dessus de sa tête. « Claquez la porte ! » cria-t-il. « Voilà ce qu'il me fallait. Je saurais montrer ce que je suis prêt à toutes les aventures. C'est ce dont je rêvais. Sortir de tout ceci, par Jupiter. Ah, voilà enfin une chance. Attendez un peu et vous verrez. » Il redressait la tête d'un air vainqueur, et pour la première et la dernière fois, j'avoue que je me sentis brusquement excédé de lui. À quoi bon de telles fanfaronnades ? Il marchait à travers la pièce, avec des gestes absurdes, et cherchait de temps en temps à tâtons, à travers ses vêtements, l'anneau serré contre sa poitrine. Y avait-il de quoi s'exalter si fort, dans la perspective d'une place d'employé de commerce, envoyé dans un endroit où il n'y avait pas de commerce ? Pourquoi lancer ainsi un défi à l'univers ? Ce n'était pas l'état d'esprit nécessaire pour affronter une entreprise, et je ne parlais pas seulement pour lui, mais pour n'importe qui. Il m'écouta un instant sans bouger. « Vraiment ? » fit-il, sans se laisser le moins du monde abattre, et avec un sourire où il me sembla, tout à coup, démêler quelque chose d'insolent. « Seulement, j'ai 20 ans de plus que lui. » La jeunesse est bien insolente, en effet. C'est son droit, et même son essence. Il faut qu'elle s'affirme, et dans ce monde de doute, toute affirmation est un défi et une insolence. Il se retira dans un coin éloigné, puis, se retournant tout à coup, il se mit à m'attaquer furieusement, si je puis dire. Je disais cela parce que moi-même, moi qui avais fait montre à son endroit d'une bonté sans limite, je gardais un souvenir de ce qui était arrivé, et cela m'indisposait contre lui. Que diraient les autres alors, le monde en général ? Était-il donc surprenant qu'il souhaitât, qu'il voulût en sortir, qu'il désirât pour toujours rester à l'écart ? Et c'est moi qui venais parler de l'état d'esprit nécessaire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le monde qui nous souvenons, protestai-je. C'est vous, vous seul qui vous souvenez. Il s'entêta, poursuivant avec chaleur. Oubliez tout, tout, et tout le monde. Sa voix tomba un peu. Sauf vous, corrigea-t-il. « Oh, moi aussi, si cela peut vous aider, » fis-je d'un ton contenu. Sur quoi nous restâmes un instant silencieux et morne, comme des gens épuisés. Il reprit alors posément le fil de son récit et me dit que Stein lui avait conseillé d'attendre 1 mois environ et de voir s'il lui serait possible de rester dans le pays avant de commencer à bâtir une maison neuve à son usage, pour éviter une vaine dépense. Il avait de drôles d'expressions, ce Stein. Vaines dépenses. Était bon. Rester là-bas. Comment donc ? Il serait bien s'y implanter. Qu'il pût seulement entrer et cela suffirait. Il répondait bien de rester ensuite, et de n'en jamais sortir. Ce n'était pas bien difficile de rester. Pas d'inutile témérité, conseillai-je, inquiet de son accent de menace. Si vous vivez assez longtemps, vous serez bien content de revenir un jour. « De revenir vers quoi ? » demanda-t-il distraitement, les yeux fixés sur le cadran d'une pendule attachée au mur. Je restai un instant silencieux. « Alors, jamais » demandai-je. « Jamais » répondit-il d'un ton rêveur et sans me regarder. Puis, brusquement rappelé à son activité, « 2 heures par Jupiter, et je dois partir à 4 !» C'était exact. Un brigantin de Stein, qui mettait cet après-midi-là à la voile pour l'ouest, devait prendre Jim pour la traversée. Seulement, on n'avait pas donné d'ordre pour reculer l'heure du départ. Stein avait dû oublier. Jim bondit chez lui pour préparer son bagage, tandis que je me rendais à bord de mon bateau, où il promit de venir me dire adieu, en allant rejoindre le brigantin dans la rade extérieure. Je le vis bientôt arriver en grande hâte, une petite valise de cuir à la main. C'était insuffisant, et je lui fis prendre une vieille malle en fer à moi, qui était garantie contre l'humidité, sinon imperméable à l'eau. Il effectua le transfert en vidant le contenu de sa valise dans la malle, comme on viderait un sac de blé. J'aperçus 3 livres au milieu du fouillis, 2 petits bouquins à couverture foncée et un gros volume à reliure vert et or, un Shakespeare complet à une demi-couronne. « Vous lisez cela ?» demandai-je. « Oui, rien de meilleur pour remonter le moral, » répondit-il hâtivement. Je fus frappé de cette appréciation. Mais ce n'était pas le moment d'entamer une discussion sur Shakespeare. Un gros revolver et 2 petites boîtes de cartouches étaient posées sur la table de ma cabine. « Prenez cela, » dis-je. « Cela pourra vous aider à rester là-bas. » À peine avais-je prononcé ces paroles que je m'aperçus de la signification sinistre qu'elles pouvaient comporter. « Vous aider à entrer, » corrigeai-je avec remords. « Vous aider, c'est pas, mais il ne se laissait pas troubler par d'obscures allusions. » Il me remercia avec effusion et me quitta en vitesse, en criant « Adieu » par-dessus son épaule. Je l'entendis jeter au batelier l'ordre de souquer ferme, et regardant par le sabord d'Arcas, je vis son canot filer sous notre voûte d'arrière. Assis sur un banc et penché en avant, Jim excitait ses hommes de la voix et du geste. Il avait gardé à la main le revolver qu'il paraissait braquer sur eux, et je n'oublierai jamais les visages épouvantés des 4 Javanais, ni le rythme frénétique de leurs coups d'aviron, qui me firent bientôt perdre l'embarcation de vue. Je me détournai, et la première chose que j'aperçus, ce furent les 2 boîtes de cartouches posées sur la table. Ils les avaient oubliées. Je fis immédiatement armer ma yole, mais sous l'impression que leur vie tiendrait à un fil, tant qu'ils auraient ce fou dans leur barque, les rameurs de Jim avaient fait un temps si excellent qu'avant d'avoir franchi la moitié de la distance entre nos 2 navires, je voyais le jeune homme escalader la lisse pendant que les matelots hissaient sa malle à bord. Toute voile larguée et la grande voile bordée, le guindeau commençait à cliqueter sur le brigantin lorsque j'abordai à mon tour le pont. Le patron, un petit métis frétillant, d'une 40aine d'années, en complet de flanelle bleue, vint à ma rencontre, tout épanoui de sourire. Il avait des yeux vifs dans un visage rond couleur de citron et une petite moustache noire et maigriotte qui tombait de chaque côté de ses grosses lèvres brunes. Son extérieur jovial et satisfait ne l'empêchait pourtant pas d'être de tempérament chagrin. En réponse à une remarque de ma part, pendant que Jim était un instant descendu, il fit « Oh oui, le patousan !» Il allait conduire le gentleman à l'embouchure de la rivière, mais il ne remonterait jamais. Son anglais fluide semblait emprunté à un dictionnaire compilé par un fou. Si M. Stein lui avait demandé de « remonter », il aurait révérencieusement, je suppose qu'il voulait dire respectueusement, mais le diable seul le sait, révérencieusement fait des observations pour la sécurité de sa cargaison. Et si on ne l'eût pas écouté, il aurait offert la résignation de ses fonctions. 12 mois auparavant, il avait effectué là-bas son dernier voyage. Et bien que M. Cornelius eût fait des offrandes propitiatoires à M. le Raja Alang, et aux principales populations, dans des conditions qui faisaient du commerce un véritable traquenard et lui donnaient un goût de cendre, son bateau avait été en butte tout le long de la rivière à une fusillade sortie des fourrés et tirée par des parties irresponsables. L'équipage avait dû se dissimuler en silence dans des cachettes et le brigantin avait failli échouer sur les bancs de sable de la barre, où il eût été voué à la destructibilité en dehors de toute puissance humaine. Le dégoût courroucé d'un tel souvenir, et l'orgueil d'une volubilité à laquelle il prêtait une oreille complaisante, se lisaient tour à tour sur son large visage ingénu. Il grondait et s'épanouissait à la fois. et contemplait avec satisfaction l'indéniable effet de sa phraséologie. De sombres frissons couraient sur la mer placide, et avec son petit hunier masqué et ses guis au milieu, le brigantin paraissait désorienté sous les sollicitations de la brise. Le métis continuait ses explications. Il me racontait avec un grincement de dents que le Raja était une hyène risible, je ne sais où il prenait les hyènes, et qu'un autre individu était 10 fois plus faux que des armes de crocodile. Un œil à la manœuvre, il donnait libre cours à sa volubilité et comparait le Patusan à une cage de bête rendue féroce par une longue impénitence. Je suppose qu'il voulait dire impunité. Il n'avait pas envie, disait-il, de s'exhiber là-bas et de se laisser entraîner à la filouterie. Les ahannements profonds qui rythmaient l'effort des hommes pour caponner l'encre cessèrent et il baissa la voix. « J'en ai trop vu, du Patusan. » Je sus plus tard que son indiscrétion lui avait valu d'être attaché par le cou, avec une corde de chanvre, à un poteau planté dans une fosse à fumier, devant la demeure du Raja. Il avait passé dans cette situation déplaisante plus de la moitié du jour et toute une nuit. Mais il y a lieu de supposer que cette épreuve était une façon de plaisanterie. Il parut réfléchir un instant d'un air sombre, ruminant cet affreux souvenir sans doute. Puis il s'adressa d'un ton bourru à un homme qui venait à l'arrière pour prendre la barre. Lorsqu'il se retourna vers moi, ce fut pour me parler raisonnablement et sans violence. Il conduirait le gentleman à Batu Kring, à l'embouchure de la rivière, dont la ville de Patusan était située à 30 000 internements. Mais à ses yeux, poursuivait-il, sur un ton las de conviction chagrine qui remplaçait sa loquacité primitive, le gentleman était déjà à la similitude d'un cadavre. « Comment, que dites-vous » m'écriai-je. Il prit tout à coup une expression de férocité redoutable et imita à la perfection le geste d'un homme qui allonge un coup de poignard par derrière. « Déjà comme un homme enterré, » m'expliqua-t-il, avec l'air d'insupportable suffisance des hommes de sa race, après ce qu'ils tiennent pour un trait de génie. Derrière son dos, je vis Jim qui me souriait silencieusement, et dont la main levée contint l'exclamation prête à jaillir de mes lèvres. Alors, tandis que le métis, crevant d'importance, lançait des ordres, que les vergues craquaient en virant, et que la lourde chaîne sortait de l'eau, Jim et moi, seuls pour ainsi dire à côté de la grande voile, nous nous serrâmes la main, en échangeant à la hâte nos dernières paroles. Mon cœur était soulagé de cette morne lassitude qui avait un instant balancé l'intérêt que je portais au jeune homme. Mieux que les avertissements réitérés de Stein, les absurdes bavardages du métis avaient donné de la réalité au redoutable péril semé sur son chemin. À ce moment, l'espèce de formalisme qui avait jusque-là présidé à nos rapports disparut de notre langage. Je crois l'avoir appelé « cher ami », et il accompagna d'un « mon vieux » l'expression balbutiée de sa gratitude, comme si les risques qu'il allait affronter eussent compensé le nombre de mes années en nous faisant plus proches d'âge et de sentiments. Nous connûmes un moment d'intimité réelle et profonde, inattendu aussi et éphémère comme la vision d'une vérité éternelle rédemptrice. Il s'efforçait de se calmer, comme s'il eût été, de nous deux, le mieux assagi par l'âge. « Entendu, entendu !» fit-il vivement avec émotion. « Je vous promets de veiller sur ma peau. Je ne courrai aucun danger inutile. Non, pas le moindre risque. Soyez tranquille. Je vais faire mon chemin. Ne vous tourmentez pas, par Jupiter. Il me semble que rien ne peut me toucher. Mais c'est une veine comme on n'en rencontre guère. Je ne voudrais pas gâcher une chance pareille, une chance magnifique. Magnifique, elle l'était, c'est vrai. Mais les occasions sont ce que les hommes les font. Et comment aurais-je pu deviner ? Comme il le disait, moi aussi je me rappelais son malheur, à son détriment. C'est vrai, et le mieux pour lui c'était de partir. Ma yole restait dans le sillage du brigantin, et je voyais à l'arrière la silhouette de Jim se détacher sur le ciel où déclinait le soleil. Il leva sa casquette au-dessus de sa tête, et j'entendis un cri indistinct. « On vous donnera de mes nouvelles !» ou « Je vous donnerai !» Je ne sais pas très bien. Je crois que c'était « on ». Mes yeux étaient trop éblouis par l'éclat de la mer pour le voir nettement. Je suis destiné, paraît-il, à ne jamais le voir nettement. Mais je vous assure qu'il était difficile de paraître moins à la similitude d'un cadavre, comme disait l'autre prophète de malheur. Je distinguais, sous le coude de Jim, la tête du petit métis, avec sa forme et sa couleur de citrouille mûre. Il leva aussi le bras, comme pour donner un coup dans le vide. Absit omen. Chapitre 24. La côte du Patousan, je la vis près de 2 ans plus tard, est droite et sombre, et borde un océan brumeux. On voit, comme des cascades de rouille, des pistes rouges filées sous le feuillage vert foncé des buissons et des plantes grimpantes qui revêtent les falaises basses. Des plaines marécageuses, ouvertes à l'embouchure des rivières, laissent entrevoir, par-delà les vastes forêts, des pics déchiquetés et bleuâtres. Au large, une chaîne d'îlots dresse, sous l'éternelle brume lumineuse, leurs ombres noires et croulantes, comme les ruines d'un mur battu en brèche par la mer. Sur l'estuaire, à l'embouchure de la branche de Batu Kring, il y a un village de pêcheurs. La rivière, si longtemps fermée, était alors ouverte, et la petite goélette de Stein, sur laquelle je me trouvais, remonta en 3 marées le courant, sans être exposée à la fusillade de parties irresponsables. De tels incidents appartenaient déjà à l'histoire ancienne, à croire le vieux chef de village de pêcheurs qui était monté à bord pour nous servir de pilote. Il me parlait avec abandon, à moi le second blanc qu'il eût jamais vu, et m'entretenait surtout du premier blanc qu'il avait aperçu. Il l'appelait Tuan Jim, et le ton sur lequel il en parlait était remarquable par un singulier mélange de familiarité et de terreur. Les habitants de son village étaient placés sous la protection de ce seigneur, ce qui prouvait que Jim ignorait la rancune. Il ne m'avait pas trompé en m'affirmant qu'on me donnerait de ses nouvelles. On m'en donnait. On se racontait déjà une histoire de marée survenue 2 heures avant son temps pour l'aider à remonter la rivière. C'était le loquace vieillard lui-même qui s'était émerveillé de ce prodige à la barre de son canot. Toute la gloire en rejaillissait d'ailleurs sur sa famille. Son gendre et son fils ramaient, mais c'étaient des jeunes gens sans expérience qui ne s'étaient avisés de la vitesse de leur allure que lorsqu'il leur avait fait remarquer le phénomène. L'arrivée de Jim avait été un bonheur pour ce village de pêcheurs, mais pour eux, comme pour tant d'entre nous, ce bienfait était survenu avec un cortège d'épouvante. Tant de générations avaient passé, depuis que le dernier blanc avait remonté la rivière, que la tradition en était éteinte. L'attitude de l'être qui leur était tombé dessus, en demandant avec une obstination inflexible à être conduit à Patousan, était déconcertante. Son insistance était alarmante, sa générosité plus que suspecte. C'était une exigence inouïe et sans précédent. Que dirait le Raja et que leur ferait-il? La majeure partie de la nuit se passa en conciliabule, mais le risque immédiat de la colère de l'homme paraissait tel que l'on finit par lui préparer une frêle pirogue. Les femmes criaient de douleur en voyant partir l'embarcation. Une vieille sorcière intrépide lançait des imprécations contre l'étranger. Lui, comme je vous l'ai déjà dit, restait assis sur sa malle de fer et gardait sur ses genoux son revolver déchargé. Il se tenait avec précaution, ce qui est plus fatigant que tout, et pénétra ainsi dans le pays qu'elle était destinée à remplir du bruit de ses vertus, depuis les pics bleus de l'intérieur jusqu'au blanc ruban d'écume de la côte. Dès le premier coude de la rivière, il perdit de vue la mer, avec le travail de ses vagues, sans cesse soulevées, retombées et fondues, pour surgir à nouveau, image même des luttes humaines, pour affronter les forêts immuables, aux racines profondément enfouies dans le sol, aux cimes tendues vers le soleil, éternelles dans la force obscure de leur tradition, comme la vie elle-même. Et sa destinée se tenait près de lui, voilée comme une fiancée d'Orient, qui attend que la main de son maître lui découvre le visage. Lui aussi était l'héritier d'une tradition obscure et puissante, ce qui ne l'empêchait pas de ne s'être de sa vie senti aussi déprimé et aussi las que dans ce canot, comme il me le raconta. Le seul mouvement qu'il se permit c'était d'allonger de temps en temps, en un geste quasi furtif, la main vers la moitié d'écorce de coco qui flottait entre ses pieds, et d'écoper avec des précautions minutieuses l'eau du fond de la pirogue. Il s'apercevait qu'un couvercle de mâle en fer est un siège bien dur. Il jouissait d'ordinaire d'une santé héroïque, mais plus d'une fois, au cours de ce trajet, il fut saisi d'accès de vertige. Il songeait, entre-temps, de façon brumeuse, aux dimensions de l'ampoule que le soleil faisait gonfler sur son dos. Dans une longue perspective vide, il fut reconnaissant à une bande de singes qui descendirent jusqu'à la rive et firent au passage de la barque un vacarme insultant. Voilà comment il marchait vers une grandeur aussi pure que grandeur jamais conquise par un homme. Par-dessus tout, il aspirait au coucher du soleil, cependant que les trois indigènes se préparaient à mettre à exécution leur projet et à le livrer au Raja. Je devais être abruti de fatigue, ou peut-être avais-je un instant somnolé, m'expliquait-il. La première chose dont il s'avisa tout à coup, c'est que sa pirogue venait de toucher la rive. Ils étaient sortis de la forêt. Les premières maisons apparaissaient un peu plus haut, et à gauche, une palissade bordait la rivière. Les bateliers venaient de sauter sur une pointe de terre basse et d'étalaient à toutes jambes. Jim se lança instinctivement à leur poursuite. Il se crut d'abord abandonné pour quelque inexplicable raison, mais il entendit des cris véhéments. Une porte s'ouvrit brusquement et un flot de gens en sortit pour courir sur lui, en même temps qu'un canot plein d'hommes armés descendait la rivière et venait se ranger près de sa pirogue vide en lui coupant la retraite. J'étais trop stupéfait pour garder mon sang-froid, comprenez-vous, et si ce revolver eût été chargé, j'aurais tiré. J'aurais pu tuer deux ou trois indigènes, et tout aurait été dit pour moi. Mais il ne l'était pas. Et pourquoi cela, demandai-je. Oh, je ne pouvais pas me battre contre toute une population, et je ne venais pas chez ces gens-là comme un homme qui craint pour sa peau, fit-il avec un vestige de son ancien entêtement maussade dans le regard qu'il me lança. Je m'abstins de lui faire remarquer que ces gens-là ne pouvaient pas deviner que son arme fût vide. Mieux valait le laisser à sa conviction. En tout cas, il ne l'était pas, reprit-il avec bonne humeur. Alors je suis resté tranquille en demandant ce qu'on me voulait. Sur quoi ils se tinrent tous quoi? Je voyais un groupe de bandits filer avec ma malle. Ce vieux coquin à grandes jambes de Cassim, que je vous présenterai demain, accourut vers moi, en me disant avec force embarras que le Raja voulait me voir. « Très bien, répondis-je, moi aussi je voulais voir le Raja. » J'entrai tout simplement par la porte, et me voici. Il rit, puis, avec une emphase inattendue, « Et savez-vous le plus beau de l'affaire ? » reprit-il. « Je vais vous le dire. C'est la conviction que si l'on m'avait supprimé, ce sont ces gens-là qui auraient perdu. » Il me disait cela devant sa maison, le soir dont j'ai parlé, après que nous eûmes vu la lune s'élever entre les montagnes et monter au-dessus de la faille, comme un esprit libéré de sa tombe. Froide et pâle, sa lueur tombait comme le spectre d'un soleil mort. Il y a dans la clarté de la lune quelque chose d'hallucinant. Elle a l'impassibilité d'une âme désincarnée et un peu de son inconcevable mystère. Elle est à l'éclat du soleil, c'est-à-dire, quoi que l'on prétende, à tout ce qui nous fait vivre, ce que l'écho est au son, trompeuse et déconcertante, que le son soit triste ou moqueur. Elle dépouille de leur substance toutes les formes matérielles, qui, somme toute, sont notre domaine, pour donner aux seules ombres une réalité sinistre. Et les ombres autour de nous étaient bien réelles. Mais Jim, à côté de moi, paraissait très vigoureux, comme si rien, pas même le pouvoir occulte de la lune, n'eût pu à mes yeux le dépouiller de sa réalité. Et peut-être, en effet, rien ne pouvait-il le toucher, puisqu'il avait résisté aux assauts des sombres puissances. Tout était silencieux et paisible. Sur la rivière même, le reflet de la lune dormait comme sur un étang. C'était l'heure du flot, moment d'immobilité qui accentuait l'isolement complet de ce coin de terre perdu. Pressé le long de la vaste surface luisante, sans rides ni scintillements, descendu jusqu'à l'eau en une ligne de silhouettes heurtées, confuses et argentées, trouées de masses d'ombre noire, les maisons paraissaient un spectral troupeau d'informes créatures, accroupi pour boire dans un fleuve spectral et inerte. Ça et là, un point rougeoyant frémissait entre les murs de bambou, chaud comme une étincelle vivante, symbole d'affection humaine, de refuge, de repos. Jim m'avoua qu'il regardait souvent s'éteindre un à un ces points lumineux, qu'il aimait voir les gens s'endormir sous ses yeux, confiant dans la sécurité du lendemain. « Quelle paix, n'est-ce pas » fit-il. Il manquait d'éloquence, mais il y avait un sens profond dans les paroles qu'il prononça ensuite. « Regardez ces maisons. Il n'y en a pas une où l'on ait foi en moi. Par Jupiter, je vous avais bien dit que je saurais rester. » Demandez à tous les hommes, aux femmes, aux enfants. Il s'arrêta. Eh bien, tout va pour le mieux maintenant. Je lui fis vivement observer qu'il avait enfin fini par s'apercevoir de ce que je savais, moi, dès le premier jour. Il hocha la tête en me serrant légèrement le bras au-dessus du coude. Vraiment, eh bien alors, vous aviez raison. Il y avait de l'exaltation et de l'orgueil. Il y avait presque de la terreur dans cette exclamation. « Par Jupiter, reprit-il, songez un peu à ce que cela signifie pour moi. » Puis, pressant à nouveau mon bras, « Et vous me demandiez si je songeais à m'en aller, bon Dieu, moi, vouloir quitter ce pays. Surtout maintenant, après ce que vous m'avez dit des intentions de M. Stein. Partir, mais c'est l'idée qui m'épouvante le plus. Ce serait plus terrible que la mort. Non, ma parole, ne riez pas. Il faut que je sente chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, que l'on a confiance en moi, que personne n'a le droit, comprenez-vous ? Partir ? Pour où ? Pourquoi ? Pour trouver quoi ? Je lui avais dit, et c'était en somme le principal objet de ma visite, que Stein avait l'intention de lui offrir, dès maintenant, la maison avec son stock de marchandises, moyennant certaines conditions légères, qui rendraient la transaction régulière et facile. Il avait commencé par renacler et par s'ébrouer. « Laissez-moi tranquille avec votre maudite délicatesse, » m'étais-je écrié. « Ce n'est pas Stein du tout. Il vous donne ce que vous avez gagné. Et, en tout cas, gardez vos observations pour McNeil, quand vous le rencontrerez dans l'autre monde, ce qui n'arrivera pas trop vite, je l'espère. » Il dut céder à mes arguments, parce que toutes ses conquêtes, confiance, gloire, amitié, amour, tout ce qui avait fait de lui un maître, en avait fait aussi un prisonnier. Il contemplait avec un œil de propriétaire la paix du soir, le fleuve, les maisons, la vie éternelle des forêts, la vie de la vieille humanité, les secrets de la terre, l'orgueil de son propre cœur. Mais toutes ces choses-là le possédaient bien plus, et faisaient de lui leur chose, jusqu'à sa plus intime pensée, jusqu'au plus profond frémissement de son sang, jusqu'à son dernier souffle. Il avait bien lieu d'être fier, et moi aussi j'étais fier en son nom, sans être pourtant aussi certain que lui des extraordinaires avantages de son marché. C'était une prodigieuse aventure, mais je ne songeais guère à l'intrépidité de Jim, et j'en faisais même singulièrement peu de cas, comme si c'eût été chose trop conventionnelle pour faire la base de l'affaire. Non, j'étais bien plus frappé par les autres talents qu'il avait déployés. Il avait su s'adapter à une situation toute nouvelle et avait fait montre, dans cet ordre d'idées, d'une véritable souplesse d'esprit. Et d'à propos aussi. C'était stupéfiant. Et tout cela lui était venu, pour ainsi dire, comme le flair à un chien de race. Il n'était pas éloquent, mais il y avait une dignité dans sa réticence naturelle, une haute gravité dans ses balbutiements. Il souffrait toujours de son ancienne infirmité et rougissait avec insistance. Mais de temps en temps, un mot, une phrase lui échappait, qui montrait avec quelle solennité, avec quelle profondeur il considérait une tâche qui lui avait valu une certitude de réhabilitation. Voilà pourquoi il aimait le pays et ses habitants, avec une sorte de farouche égoïsme, avec une méprisante tendresse. Chapitre 25. « C'est ici que je suis resté 3 jours prisonnier, » me soufflait-il, lors de notre visite au Raja, pendant que nous traversions lentement la cour de la maison de Tukku Alang, devant une foule d'indigènes pétrifiés de respectueuse terreur. Ignoble endroit, n'est-ce pas ? Et il fallait que je fisse un vacarme du diable pour avoir quelque chose à manger. Encore ne m'importait-on qu'une petite assiette de riz et un poisson frit gros comme une épinoche. Ah, les brigands, par Jupiter. Ai-je eu assez faim à rôder dans cette enceinte puante avec ces vagabonds-là qui venaient me fourrer leurs binettes jusque sous le nez? À la première sommation, j'avais rendu votre fameux revolver, trop heureux d'être débarrassé du maudit objet. J'avais l'air d'un idiot à marcher avec une arme vide à la main. À ce moment, nous arrivâmes devant la présidence, et mon Jim se fit toute immuable gravité et tout compliment pour l'homme dont il avait été le prisonnier. Oh, c'était magnifique! J'ai encore envie de rire quand j'y pense. Mais j'étais impressionné aussi. Le vieux gredin de Tumkualang ne pouvait s'empêcher de laisser paraître sa terreur. Ce n'était pas un héros malgré toutes les histoires de son ardente jeunesse qu'il aimait raconter. Et laissait percer en même temps à l'endroit de son ancien prisonnier une sorte de confiance attentive. Voyez, ceux-là même qui l'exécraient le plus avaient foi en lui. Jim, à ce qu'il me parut comprendre, profitait de notre visite pour lancer quelques admonestations. De pauvres villageois avaient été attaqués et détroussés en allant chez Doramine avec des gâteaux de gomme ou de cire d'abeille qu'ils voulaient troquer contre du riz. « C'est Doramine, le voleur !» éclata le Raja. Une furieuse colère faisait trembler son corps frêle. Incarnation de la rage impuissante, il s'agitait frénétiquement sur sa natte, gesticulait des pieds et des mains, et secouait les mèches emmêlées de sa tignasse. Il y avait autour de nous un cercle de prunelles dilatées et de mâchoires tombantes. Jim se remit à parler résolument, froidement, insistant sur ce fait qu'aucun homme ne devait être empêché de gagner sa vie et celle de ses enfants. Accroupi en tailleur sur son estrade, une main sur chaque genou et la tête basse, l'autre regardait le jeune homme à travers les cheveux gris qui lui tombaient sur les yeux. Lorsque Jim eut achevé, un grand silence s'établit. On aurait dit que personne ne respirait plus, et il n'y eut pas un bruit, jusqu'à ce que le vieux Raja, relevant la tête avec un faible soupir, regarda droit devant lui en disant vivement « Vous entendez, vous autres, plus de ce petit jeu-là !» Ce décret fut accueilli dans un profond silence. Un gros individu aux yeux intelligents, au visage large, osseux et très brun, homme de confiance, évidemment, à la mine obligeante et joviale, je sus plus tard que c'était le bourreau, nous présenta deux tasses de café sur un plateau de cuivre qu'il prit aux mains d'un serviteur subalterne. « Vous n'êtes pas obligé de boire, » me souffla vivement Jim. Je ne compris pas tout de suite le sens de ses paroles et le regardai. Il buvait une bonne gorgée et restait tranquillement assis, la soucoupe dans la main gauche. Je me sentis fort ennuyé. « Pourquoi diable ?» lui glissai-je avec un sourire aimable. « M'exposez-vous à un danger aussi stupide ?» Je bus naturellement, car il n'y avait pas de choix, sans qu'il fît un signe quelconque, et nous prîmes presque aussitôt congé. Tandis que nous traversions la cour pour regagner notre canot, sous la conduite de l'intelligent et jovial bourreau, Jim m'exprima ses regrets. C'était un risque minime, à coup sûr, et pour sa part, il ne s'inquiétait guère du poison. Un danger insignifiant. On le tenait, m'affirma-t-il, pour infiniment plus utile que dangereux, de sorte que... Mais le Raja a une frousse abominable de vous, c'est bien facile à voir, affirmai-je avec une certaine aigreur, je l'avoue, et sans cesser de me tâter avec inquiétude, en guettant le premier tiraillement de quelque sinistre colique. J'étais parfaitement écœuré. Si je veux faire un peu de bien ici, « et y garder ma situation, m'expliqua Jim, en s'asseyant près de moi dans le canot, il faut que je coure ce risque-là. Je m'y soumets une fois par mois, au moins. Bien des gens attendent de moi ce geste, et je le fais pour eux. La frousse, justement, il a peur de moi, très probablement parce que moi, je n'ai pas peur de son café. » Et me montrant sur la façade nord de l'enceinte, un point où les sommets pointus de quelques pieux étaient brisés, « voilà par où j'ai sauté, le troisième jour qui suivit mon arrivée à Patusan. On n'a pas encore remplacé les pieux. Un beau saut, n'est-ce pas ?» Un instant après, comme nous passions devant une petite anse boueuse, et c'est ici que je fais le second. Je courais et j'ai pris de l'élan. Mais je n'ai pas sauté assez loin. J'ai bien cru y laisser ma peau. J'ai perdu mes souliers en me débattant. Et tout le temps, je me représentais combien il serait odieux de recevoir un coup de leur maudite lance pendant que je m'agitais dans cette vase. Écœurement est le mot. C'était comme si j'eusse mordu dans de la pourriture. Voilà ce qui s'était passé. Et tout le temps, la chance courait à côté de lui, sautait par-dessus l'obstacle, pataugeant dans la boue, et gardait toujours son voile. La brusquerie de son arrivée inopinée était, vous le comprenez bien, la seule circonstance qui l'eût sauvé d'être dépêché à coups de crisse au fond de la rivière. On le tenait, mais c'était comme si on eût mis la main sur une apparition, un fantôme, un spectre annonciateur de désastre. Que signifiait cette apparition? Et qu'en faire? Était-il trop tard pour se concilier cet homme? Ne valait-il pas mieux le tuer, sans plus de tergiversation? Mais qu'arriverait-il alors? À moitié fou d'appréhension et d'incertitude, le misérable vieil Allang ne savait prendre aucune décision. Le conseil fut plus d'une fois interrompu, et les conseillers se précipitèrent à la débandade, vers la porte et sur la véranda. L'un d'eux même, paraît-il, sauta par terre de 15 pieds de hauteur et se cassa la jambe. Le gouverneur royal du Patousan avait de singulières façons. L'une d'elles consistait à entremêler les discussions ardues d'un fatras de vantardise et à si bien se monter la tête qu'il finissait par sauter de son siège, un cris à la main. Mais à peur de telles interruptions, les délibérations concernant le sort de Jim se poursuivaient jour et nuit. Lui, cependant, se promenait dans la cour, objet de terreur pour les uns, de curiosité pour les autres, mais étroitement surveillé par tous, et pratiquement à la merci du premier maroufle venu qui fut entré avec un couteau dans cette enceinte. Il avait pris possession d'une hutte délabrée pour y dormir. Les odeurs de détritus et de pourriture l'incommodaient fort, mais il faut croire qu'il n'avait pas, pour cela, perdu l'appétit, car il me disait avoir eu faim tout le temps. De temps à autre, un idiot à l'air important accourait vers lui, de la part du conseil, et lui infligeait avec un accent sucré un interrogatoire stupéfiant. Les Hollandais allaient-ils venir s'emparer du pays? Le blanc ne voulait-il pas redescendre la rivière? Quelle idée avait pu le pousser à venir dans un pays aussi misérable? Le Raja voulait savoir si le blanc savait réparer une montre. Et on lui apporta en effet un réveil en nickel venu de la Nouvelle-Angleterre, dont, par intolérable ennui, il s'évertua à faire marcher la sonnerie. C'est sans doute pendant qu'il s'occupait ainsi, dans sa cabane, que le frappa l'idée de son extrême danger. Il lâcha le réveil comme une pomme de terre trop chaude et sortit vivement dans la cour, sans la moindre idée de ce qu'il voulait ni même de ce qu'il pouvait faire. Il savait seulement que la situation était intolérable. Il se promenait machinalement devant une sorte de petit grenier en ruine, juché sur des piquets, lorsque ses yeux tombèrent sur les pieux brisés de la palissade. Alors, me racontait-il, du premier coup, sans aucun travail mental, pour ainsi dire, et sans trace d'émotion, il décida de fuir, comme s'il eût mis à exécution un plan mûri pendant un mois. Il fit quelques pas d'un air détaché pour se donner du champ, et vit, en se retournant, un dignitaire s'approcher de lui, avec deux porteurs de lance, pour lui poser une question. Bondissant sous le nez du bonhomme, il s'envola comme un oiseau et retomba de l'autre côté de la palissade avec un choc qui ébranla tous ses os et faillit lui faire éclater la tête. Il se releva immédiatement. Il ne pensait à rien. Tout ce dont il se souvenait, c'était d'un grand cri. Les premières maisons de Patousan étaient devant lui, à 400 mètres. Il vit la petite anse et machinalement, pour ainsi dire, força encore l'allure. La terre volait sous ses pieds. Il prit son élan sur le dernier point solide, se sentit enlevé dans l'air, et se trouva sans le moindre choc, planté tout droit dans un banc de vase affreusement molle et gluante. C'est seulement en essayant de remuer les jambes, et en s'apercevant qu'il ne pouvait le faire, que, selon ses propres paroles, il revint à lui. Il se mit à penser aux maudites longues lances. En fait, la nécessité où se trouvaient les poursuivants de courir à la porte de l'enceinte, de gagner l'embarcadère, de monter dans leur canot et de contourner une pointe de terre, lui donnait plus d'avance qu'il ne l'imaginait. De plus, la marée était basse, et sans être complètement à sec, la crique n'avait pas d'eau, ce qui mettait provisoirement Jim à l'abri de toute atteinte. Seul un javelot lancé de très loin aurait peut-être pu le toucher. La rive et le sol ferme ne se trouvaient qu'à 6 pieds environ de lui. « J'ai bien cru que j'allais mourir là tout de même, » me dit-il. Il allongeait les bras, s'agrippait, et ne réussissait qu'à entasser contre sa poitrine et jusqu'à son menton une masse horriblement froide et visqueuse de vase. Il sentait qu'il allait s'enliser tout vif, et il se mit à faire des gestes frénétiques en éclaboussant, à coups de poing, la boue qui retombait sur sa tête, sur son visage, dans ses yeux, dans sa bouche. Il se souvint tout à coup de la cour, comme on se souvient d'un endroit où l'on a été très heureux, des années auparavant. Il rêvait, me disait-il, de s'y retrouver, penché sur son réveil. Sur son réveil, voilà son idée. Il faisait des efforts prodigieux, spasmodiques, forcenés, des efforts qui paraissaient faire éclater ses yeux dans leurs orbites et le rendre aveugle, des efforts qui aboutirent à un suprême et puissant effort dans l'ombre pour fendre en deux la terre, pour lui arracher ses membres. Et tout à coup, il se sentit avancer dans la vase. Puis il se retrouva couché de tout son long sur la terre ferme, et il vit la lumière, le ciel. Alors, comme une pensée bienheureuse, une idée de dormir l'envahit. Et il soutient qu'il dormit, en effet, qu'il dormit peut-être 1 minute, peut-être 20 secondes, ou 1 seconde seulement. Mais il se rappelle nettement le sursaut convulsif et violent de son réveil. Il resta un instant immobile, puis, se dressant, couvert de vase de la tête aux pieds, il se tint debout, avec la pensée qu'il était seul de son espèce, seul à des centaines de milles de ses pareils, sans espoir, sans sympathie, sans pitié, à attendre de personne, comme un animal traqué. Les premières maisons n'étaient pas à plus de 20 pas, et c'est un cri d'épouvante qui le tira de sa torpeur. Une femme devant lui s'efforçait de fuir avec son enfant. Il se rua tout droit en chaussettes, couvert d'une carapace de boue qui lui ôtait toute apparence humaine. Il traversa plus de la moitié de la ville. Alerte, les femmes couraient à droite et à gauche. Les hommes, plus lents, laissaient tomber tout ce qu'ils tenaient à la main et restaient pétrifiés, la mâchoire tombante. Jim était une terreur volante. Il vit des petits enfants qui cherchaient à fuir, mais tombaient sur le ventre en agitant les jambes. Il grimpa une côte entre 2 maisons, escalada une barricade d'arbres abattus, il n'y avait pas de semaine sans combat à Patoussan dans ces temps-là, passa en crevant une clôture dans un champ de maïs, où un jeune garçon épouvanté lui lança un bâton, s'engagea dans un sentier et tomba tout à coup sur un groupe d'hommes stupéfaits. Il lui restait juste assez de souffle pour halter « Doramine, Doramine !» Moitié poussé, moitié porté jusqu'au sommet de la côte, il pénétra dans un vaste enclos planté de palmiers et d'arbres fruitiers et se trouva en présence d'un gros homme pesamment assis dans un fauteuil, au milieu de l'agitation et de l'émotion la plus prodigieuse. Fouillant dans ses vêtements et dans la boue pour atteindre l'anneau, il se sentit soudain couché sur le dos et se demanda qui l'avait ainsi jeté sur le sol. En fait, on l'avait tout simplement lâché, comprenez-vous, mais il ne se tenait plus. Au pied de la côte, quelques coups de feu partaient au hasard, et sur les toits de la colonie passait une sourde rumeur d'épouvante. Mais Jim était en sûreté. Les serviteurs de Doramine barricadaient les portes et lui versaient de l'eau dans la gorge. Pleine de sollicitude et de compassion, la vieille épouse de Doramine lançait des ordres aux servantes d'une voix aiguë. « La bonne vieille s'empressait autour de moi comme si j'eusse été son enfant, » m'expliquait Jim. On me mit dans un lit immense, son propre lit de parade. Elle entrait et sortait de la chambre en s'essuyant les yeux, et s'approchait de mon lit pour me donner de petites tapes sur le dos. Je devais être un objet pitoyable. Je ne sais combien de temps je suis resté là, comme une souche. Il paraissait nourrir une grande tendresse pour la vieille femme. Elle, de son côté, s'était prise pour lui d'affection maternelle. Elle avait un visage rond et doux, couleur de noisette, et couvert de rides menues avec des lèvres épaisses, d'un rouge vif. Elle mâchait assidûment le bétel, et des yeux tirés, clignotants et bons. Toujours en mouvement, elle grondait et menait sans cesse une troupe de jeunes femmes, à visage brun clair et à grands yeux graves, filles, servantes ou esclaves. Vous savez ce qu'il en est dans ces grandes maisons. Il est généralement impossible de faire la distinction. Elle était très économe, et son ample manteau même, qu'attachait sur sa poitrine des agrafes ornées de pierreries, paraissait un peu fripé. Ses pieds bruns et nus étaient chaussés de sandales de paille jaune de fabrication chinoise. Je l'ai vu moi-même vaquer à ses occupations, avec ses longs cheveux gris et très gros, tombant sur les épaules. Elle prononçait des paroles empreintes d'un bon sens avisé, était de noble naissance et se montrait excentrique et arbitraire. L'après-midi, assise en face de son mari dans un fauteuil très large, elle regardait longuement par une vaste baie percée dans le mur, qui commandait une vue étendue de la ville et de la rivière. Elle repliait toujours ses pieds sur son siège, tandis que le vieux Doramine reposait carrément, imposant comme une montagne assise sur une plaine. Il appartenait seulement à la classe nakoda ou commerçante, mais le respect qu'on lui témoignait et la dignité de son attitude étaient très frappants. Il était le chef du second pouvoir au Patousan. Les émigrants des célèbres, une soixantaine de familles, qui, avec serviteurs et familiers, pouvaient fournir quelque 200 hommes portant le Christ, l'avaient depuis des années choisi comme chef. Les hommes de cette race sont intelligents, entreprenants, vindicatifs, font montre d'un courage plus franc que les autres malais, et supportent l'oppression avec impatience. Ils constituaient le parti d'opposition au Raja. Les querelles étaient motivées par des questions commerciales, cause primordiale des combats de factions et des explosions soudaines qui remplissaient de fumée, de flammes, de coups de feu et de cris telle ou telle partie de la colonie. Des villages brûlaient. Des hommes traînés dans l'enceinte du Raja y étaient tués ou torturés pour avoir fait du négoce avec d'autres que lui. Un jour ou deux seulement avant l'arrivée de Jim, et dans le village même des pêcheurs qu'il devait prendre plus tard sous sa protection spéciale, plusieurs chefs de maison avaient été précipités du haut des falaises par un parti de lanciers du Raja sur le soupçon d'avoir récolté des nids comestibles pour un négociant des célèbres. Le Raja Alang prétendait faire seul du commerce dans le pays et punissait de mort tous ceux qui attentaient à ce monopole. Mais ses notions de commerce étaient assez difficiles à distinguer des formes les plus banales du vol. Sa cruauté et sa rapacité avaient pour seule limite sa couardise, et il avait peur du parti organisé des hommes des célèbres. Seulement, jusqu'à l'arrivée de Jim, il n'avait pas eu assez peur pour se tenir tranquille. Il les frappait en frappant ses propres sujets et se croyait sincèrement dans son droit. La situation était encore compliquée par la présence d'un étranger, un métis arabe qui, pour des motifs purement religieux, je crois, avait incité à la révolte des tribus de l'intérieur, les peuples des bois, comme disait Jim, et s'était installé dans un camp fortifié au sommet d'une des montagnes jumelles. Il menaçait de là la ville de Patousan comme un faucon qui plane sur une basse-cour et dévastait tout le pays d'alentour. Des villages abandonnés pourrissaient sur leurs poteaux noircis au bord des torrents clairs. Ils laissaient par bribes tomber à l'eau l'herbe de leurs murs, les feuilles de leurs toits, et ces ruines prenaient un singulier aspect de décrépitude naturelle, comme si elles eussent été une forme de végétation frappée par la maladie dans sa racine même. Les deux partis du Patousan ne savaient pas très bien lequel d'entre eux ce troisième partisan préférait plumer. Le Raja intriguait sourdement avec lui. Certains des colons bugis, las d'une éternelle insécurité, songeaient un peu à l'appeler à la rescousse. Les plus audacieux d'entre eux disaient en riant qu'ils allaient charger le shérif Ali de chasser du pays, à l'aide de ces sauvages, le Raja Alang. Doramine avait peine à les contenir. Il vieillissait, et bien que son autorité demeurât intacte, la situation commençait à le déborder. Tel était l'état des affaires lorsque, échappé de la cour du Raja, Jim arriva devant le chef des bugis, montra son anneau, et fut, pour ainsi dire, reçu dans le cœur de la communauté.